Salut tout le monde. Bienvenue à Angle Mort aujourd'hui. Deux nouvelles qui se croisent. Le 200e, aujourd'hui on va célébrer en France le 200e anniversaire de la mort de Napoléon. Et puis ça fait une grosse controverse. Et puis je fais un mix avec un article qui a eu lieu dans un journal de San Francisco où deux filles nous disent que Blanche-Neige, quand était étendue, puis qu'elle attendait simplement de se faire embrasser par le prince charmant pour pouvoir se réveiller d'un espèce de coma éternel, n'était pas consentante. Elle n'était pas consentante. L'histoire nous dit que si ce n'était pas le cas, ce ne serait jamais réveillé. Si on connaît l'histoire comme telle, rappelez-vous, c'est que tout à coup, à 7 ans, puis la seule façon qu'elle peut de se réveiller. Alors, il y a vraiment un combat ici, fort intéressant, entre est-ce qu'on préfère rester morte ou se faire embrasser sans soi-disant le consentement. Puis si on connaît l'histoire comme il faut de Blanche-Neige, il y a une espèce d'attente. C'est-à-dire que c'est la seule solution pour qu'elle se réveille. C'est clairement dit dans le conte. Alors, c'est fantastique. Et puis, Napoléon, la controverse, si vous n'êtes pas au courant, parce que ça se discute depuis des semaines en France, partout, il n'y a pas un média qui n'a pas traité de l'affaire, c'est que Napoléon a installé... Bon, d'abord, Napoléon, ça a été ce qu'on appelle un grand homme en termes d'envergure. Mais tu peux être un homme de grande envergure puis avoir toutes sortes de comportements douteux, c'est bien connu. On prend l'exemple de Dominique Strauss-Kahn avec l'affaire de la femme de chambre à New York. On pense à Gilbert Rozon. Donc, à quelque part, il y a l'homme dans sa vie privée. Puis quand je dis privée, elle peut être publique. Mais dans sa vie, appelons ça personnelle. Puis les réalisations, si on veut. Alors, la liste est immense. Bertrand Cantat, de Noir Désir, qui avait assassiné Trintignant. Anne-Marie, en tout cas, Trintignant, là, une actrice, là, qui est la fille du grand acteur Trintignant, aussi français. Donc, il a été trouvé coupable, tout ça. Il a fait de la prison un peu en accéléré, je pense, au Luxembourg. Puis après ça, alors, est-ce qu'on diffère? C'est un débat éternel, puis bon, chacun... Mais la réalité que je trouve dans le cas de Napoléon, parce que Napoléon, c'est le code civil, le code criminel, c'est toute l'administration à partir de Paris, puis dans la France au complet, donc toute la façon, les préfets, toute comment la division s'est faite, etc. C'est un guerrier hallucinant qui avait une emprise sur l'Europe au grand complet. Donc, si on aime les gens forts et d'envergure, Napoléon, c'est une figure de proue. Si on trouve qu'au contraire, ce sont des oppresseurs puis qu'on a un nom à la guerre... comprenez-vous? Il est possible de lire tout ça. La première affaire qui est un peu ridicule, c'est quand on essaie d'analyser dans le contexte d'aujourd'hui, de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, cette personne-là ferait défaut dans certains aspects de ses comportements? Fait que déjà, il faut reculer dans le temps. Est-ce que c'était répréhensible parce qu'il a ramené l'esclavage qui avait été aboli, qui a été réaboli pas si longtemps après? Ben oui, quand même, assez longtemps après. Mais peu importe. Est-ce que dans ce temps-là, c'était quelque chose qui était épouvantable ou c'était quelque chose qui se vivait? Alors, nous autres, avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit, c'est incroyable, comment c'est ça que ça existait, c'est épouvantable. Mais c'est encore une fois une influence très religieuse. Je vous rappelle que pour la plupart des grandes religions, ce qu'on appelle les mécréants, c'est-à-dire ceux qui sont d'une religion autre ou qui n'en ont simplement pas, ont même pas d'âme. Pour les colonisateurs de l'Amérique du Sud, les Autochtones n'avaient pas d'âme. T'sais, il fallait leur en donner une. C'était pas juste des convertir. C'était des gens qui valaient rien. Qui valaient rien. Fait que deux esclaves, pourquoi pas? Un veau, une vache. C'est incroyable, mais je veux dire, qu'est-ce que je te dis? Ça n'excuse pas rien, mais ça l'explique. Si vous voulez nier tout ça, ben là, on va nier à coup de 24 heures, parce que la société bouge tout le temps. C'est qu'on va nier ce qu'il y avait hier. Il y a des choses qui sont arrivées hier qui ont un petit peu bougé en date d'aujourd'hui à cause de ce qui se dit dans les médias, la conversation que vous avez avec quelqu'un, ça finit plus. Ça fait que sans rien excuser, il faut être capable de l'analyser dans son contexte. Moi, où je trouve que c'est un peu capoté, c'est qu'on dirait qu'il faut absolument prendre l'un ou l'autre. C'est-à-dire que il faut être pour ou contre Napoléon. Pourquoi? Pourquoi on peut pas simplement dire que Napoléon a eu, aux yeux de l'histoire, aux yeux de ce qu'on décide qu'aujourd'hui est correct ou pas, à chacun son critère. Moi, je vous le dis, le mien, c'est que je veux pas penser les choses en dehors du contexte historique où c'est arrivé. Alors, après ça, ça demeure répréhensible, c'est pas ça le point, mais c'est pas vrai que, encore une fois, c'est l'œuvre souvent de ce que j'appelle la gauche des sensibilités, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me sens heurté, c'est valide. Ben non, tu peux être heurté comme on l'est tous, sans que ce soit par définition, tout à coup, une nouvelle façon de voir les choses qui est tout à fait valide et qui exclut les autres façons de voir. Ben non, je suis désolé, on réfléchit pas avec ses émotions, ça marche pas de même. Ça fait que moi, Napoléon, pour le peu que j'en connais, je suis ni pour ni contre. Je suis intéressé à qu'est-ce qu'il a fait. Puis je suis très capable de dire, ah ouais, il a ramené l'esclavage. Ouais, je peux pas applaudir ça. Il y avait une approche, semble-t-il, très réductrice des femmes, dans le Code civil notamment, où ce qu'il a dit carrément qu'il fallait que... Mais c'était encore... c'était ça dans tout le catholicisme, la chrétienté. C'est la femme partira, la femme qui obéit à son mari. Il n'a pas inventé ça. C'était de la culture où est-ce que la religion était extrêmement forte. Ça fait même pas 50, 75 ans que dans le monde occidental, le catholicisme, entre autres, puisqu'ailleurs c'est une autre histoire, a perdu son influence, si on veut. C'est la porte à côté, 50 ans, là. Mes parents, moi, ont vécu d'abord et avant tout par des préceptes catholiques, bien avant d'être des préceptes de droit civil ou autre. Les 10 commandements, ça a été repris à peu près dans le code civil, si vous voulez, là, dans le code criminel. Tu ne tueras point, hein, je veux dire, bon. Ça fait que l'influence que ça avait intellectuellement, c'est énorme. Puis ça faisait en sorte que ça influençait monsieur et madame tout le monde. Donc moi, je trouve que cette espèce de polarisation-là est insignifiante. Pourquoi on peut pas prendre... Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce que, ironiquement, quand ça parle d'œuvres qui sont assez connues, en l'occurrence Blanche-Neige, hein, c'est assez connu, Napoléon, c'est assez connu, c'est comme si on a un autre set de valeurs que celui qu'on prend avec notre propre entourage. Venez me dire que vous autres, vous êtes entourés de gens parfaits. Il n'y a que ça dans votre entourage. Votre famille est extraordinaire. Vous avez un frère, il n'a jamais fait d'erreur. Votre sœur vole dans les airs. Votre mère, ça, puis Mère Thérésa, c'est la même chose. Votre père est sur le bord d'être béatifié. Ah bon? C'est pas ça. Ah, très surpris. Nos amis, nous-mêmes, on est à la fois souvent très contradictoires. On aime quelque chose, puis tout à coup, on aime son contraire. On s'en rend juste pas compte. Les autres voient ces contradictions-là parce que ça vient chercher leurs principes, etc., mais c'est de même. Pourquoi, dans l'actualité, il faut absolument qu'il y ait une polarisation pour ou contre des gens qui, par définition, ont des bons et des mauvais côtés, puis que certains des mauvais côtés tombent dans l'excès, tombent dans, mettons, être déplacé versus être criminel, en tout, hein? Je veux dire, moi, je peux vous crier après, j'ai le droit. Puis tout à coup, je vous crie tellement après qu'en plus, il y a une claque qui part. Oh, voie de fait! Bon, pourtant, la claque était pas forte, puis l'engueulade, elle, il n'y a pas de trouble. Ben oui, ben c'est fait de même. Tu n'as pas le droit de toucher quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? C'est de même. Ça fait que c'est... Il y a des degrés dans tout, puis quand on arrive à des personnages historiques d'envergure ou des œuvres connues, il faudrait commencer par dire, ouais, ben là, non. C'est comme lui, non. Mais pourquoi? C'est où, ce deux poids, deux mesures-là? Moi, je ne le prends pas en tout. J'ai aucun problème. Si, par exemple, dans l'histoire, effectivement, de Blanche-Neige, c'était littéralement, il l'a embrassée contre sa volonté. Ou c'est un nécrophile. Il a voulu monter dessus, puis il pensait qu'elle était morte. Là, tu fais tabarouette. C'est un peu élevé. Je pense que là, il y a une proportion qui fait en sorte que je suis plus ben capable de voir le petit comte gentil avec le prince charmant. Comprenez-vous? C'est encore là, il faut faire preuve d'un minimum de nuance puis d'analyse. Puis au final, quand on agit de même, ben chacun peut dire, moi je trouve qu'il y a un peu plus d'un qu'un peu plus de l'autre. quelqu'un pourrait me dire, moi, si tu me demandes si je vais, voyez-vous, une nuance très intéressante qui se fait dans les médias en France, c'est de dire, on va commémorer Napoléon, mais on ne va pas le célébrer. On ne va pas dire, c'est fantastique, Napoléon. Mais je suis bien d'accord avec ça. Moi, je ne cherche pas à ce qu'on mette en dessous du tapis des affaires poches qui sont arrivées à des gens qu'on a peut-être eu l'habitude de glorifier comme si tout ce qu'ils avaient fait était parfait. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Mais quand tout à coup, il faut choisir son camp, là, il y a des pro-Napoléon là, qui se déguisent en Napoléon, puis pour qui c'est comme la reine, là, can do no wrong. Là. Napoléon, excusez-moi, mais moi, j'achète tout en bloc, puis même ce qui est pourri, je trouve ça, au final, c'est correct. Bon, moi, je pense pas que c'est le même qu'il faut faire. D'après moi, il faut avoir un minimum de distance, parce que cette distance-là, je le répète, on l'a avec nos amis. Tous nos amis ont des affaires qu'on dit « Ah, ça, d'accord, pas d'accord. Ça, je trouve ça correct. Ça, je trouve ça moyen. » Tout le monde! Un an avec Éric Duhaime, là, tous les jours, pensez-vous vraiment que c'était comme « Ah, mon Dieu, Éric, tout ce que tu dis, je trouve ça fantastique. » Non. C'était ça qui était particulièrement payant de notre duo. C'était que les gens pouvaient voir deux personnes qui se coltaillaient, comme on dit, là, qui se pognaient dans la joie. Je disais tout le temps ça. Puis là, après, ben tu peux rester fâché contre un ou contre l'autre, puis pas être d'accord, puis c'est la vie, là, à un moment donné, c'est la vie. C'est juste la vie. Mais hier, je parlais de ça justement à radio, tu sais, peu importe le sujet principal, mais j'ai fini en disant, comment on appelle ça, quelqu'un qui est un dévot, c'est-à-dire que peu importe ce que la personne dit, ça va toujours être correct. Comprendre une partie de l'électorat très foncé de Donald Trump. Ben on appelle ça un mouton. Ben... C'est que tous ceux qui traitent de moutons, ceux qui se font vacciner, j'espère juste que vous n'êtes pas des dévots de Donald Trump, que pour qui tout ce que Trump dit, c'est toujours bon, c'est fantastique, parce qu'il y a une clientèle chez lui qui est comme ça, qui est un peu comme... C'est blastant, mais on l'a vu. C'est-à-dire, voilà, peu importe, c'est pas grave, tout ce qu'il dit, que ce soit faux, peu importe. Moi, j'achète ça. J'achète tout en bloc, il est fantastique. C'est quel grand homme. C'est fucked up. Tu vois pas ça d'autres politiciens, c'est très rare. De nos jours, à l'époque, quand les gens allaient moins à l'école, ça votait d'une génération à l'autre, ça votait libéral ou ça votait conservateur. Puis effectivement, c'était comme, voilà, moi, mon vote est là, puis ils feront ce qu'ils veulent. C'est terminé. On voit beaucoup moins ça maintenant. Qui vote pour la CAQ, puis qui dit que François Legault, tout ce qu'il fait est fantastique? Mais sérieux, j'en connais pas, puis je crois pas qu'il y en a beaucoup, voire pas. Puis lui-même, manifestement, les politiciens, à l'ère des médias, puis des médias sociaux, cherchent pas à faire aucune unanimité. Puis à un moment donné, sur le nombre de décisions qu'ils prennent, il y en a qui sont dans le champ, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Rien. Ça fait que c'est vraiment capoté, cette situation-là, où tout à coup, on essaye justement de canceller quelqu'un, au lieu de comprendre, puis d'exposer, très objectivement, ben voici. Alors, après ça, évidemment, si on est tout le temps dans la nuance, on finit par plus penser. Ça me fait rire, le monde qui dit « Ouais, mais là, tu généralises, mettons. » Mais je généralise parce que j'essaie de réfléchir à ce qui se passe. Si c'est tout le temps, chaque exception vaut la règle, c'est quoi là, les conclusions qu'on peut tirer? Comment on fait pour avancer puis se faire une tête? C'est que moi, je dis pas qu'il faut que vous soyez nécessairement complètement distancé de l'histoire de Napoléon. Vous avez le droit d'avoir un parti pris en disant « Moi, je pense qu'on devrait, on devrait pas te la faire. » Mais de grâce, ne pensez pas qu'il faut nécessairement être dans un camp ou dans l'autre. Qu'il faut être pour quelqu'un ou contre quelqu'un. À un moment donné... Je veux dire, je vois pas comment on fait pour avancer. En tout cas, je sais pas comment vous faites si vous êtes de même tout le temps, comment vous faites pour continuer à parler au monde autour de vous, qui inévitablement, des fois, soit vous déçoivent, soit disent des choses que vous dites, hein, moi, ça me fait sursauter parce que, excuse-moi, mais je suis pas là pantoute. Bon, vous choisissez que c'est des amis. Moi, un de mes amis m'avait dit une phrase, encore une fois, les phrases les plus simples sont les meilleures. Il avait dit, si on voulait que nos amis soient parfaits, on n'en aurait pas. Ça fait que si... vous pensez que pour pouvoir adhérer à un parti, à un pan de votre histoire ou à n'importe quoi, il faut absolument que vous preniez tout en bloc, ben vous n'allez jamais rien prendre. Puis ce que vous allez prendre, ben ça va être quasiment gênant parce que inévitablement, tout ce que vous tripez à mort, à part un toutou en plus, ça vient avec des qualités, des défauts, des comportements qu'on préférait ne pas voir, puis des opinions, puis tout. Ça s'appelle vivre en société. Si vous capotez là-dessus, si vous êtes tout le temps en train de vous fâcher sur la moindre affaire qui fait comme une anicroche, calvaire, ça doit être lourd. Sur ce, une excellente journée et à demain.